Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. En 2026, donc, poursuivons nos habitudes et débutons cette chronique par les minutes remue-ménage en allant voir les processus induits par la marche chez les autres écrivains ou philosophes. Aujourd'hui, Jack Kerouac, 1922-1969, un écrivain de la Beat Generation. La route, c'est la vie, disait-il. La marche et le voyage étant vécus par lui et ses amis comme une vraie quête de liberté et d'expérience. Jack Kerouac a fait parler de lui par son roman « On the Road », sur la route, qui explore les thèmes de la quête de liberté, d'évasion et d'identité à travers le voyage et la marche. Pour lui, la marche se présente comme un symbole fondamental de liberté et d'exploration. Marcher, ce n'est pas simplement un moyen de déplacement, c'est une façon de s'engager avec le monde, de découvrir de nouveaux horizons et d'échapper aux contraintes de la vie quotidienne. Ces personnages cherchent à s'échapper des normes sociales et des attentes. La marche permet une forme de rébellion contre les conventions bourgeoises, incarnant un mode de vie alternatif où l'expérience immédiate et l'improvisation priment sur la planification et la stabilité. Kerouac montre que le mouvement physique peut conduire à un mouvement intérieur. À travers leur pérégrination, ces personnages explorent leur identité, les relations humaines et leur place dans le vaste paysage américain. Kerouac puise, bien sûr, dans l'imaginaire américain, évoquant des paysages emblématiques et des traditions de road trip. La route devient un espace de liberté où chaque rencontre enrichit l'expérience de vie. La marche et le voyage permettent d'embrasser la diversité du pays et d'accéder à un sentiment d'appartenance permanente à la culture américaine. On notera aussi que l'écriture de Kerouac, souvent associée à l'utilisation du style flux de conscience, reflète l'improvisation qui accompagne la marche dans son parcours. Il valorise l'authenticité des expériences vécues sans contrainte. Cette approche résonne avec l'idée de Carpe Diem, où chaque instant est une occasion d'apprentissage et de connexion. On pourra rajouter que Kerouac a été influencé par le bouddhisme et la recherche d'un état d'illumination. La marche, dans ses écrits, peut symboliser une forme de méditation en mouvement où la pleine conscience se mêle à la découverte de soi. Ce rapport au voyage transcende la simple exploration géographique, suggérant une quête spirituelle profonde.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Bien, nous poursuivons notre anthropologie de la marche. Nous avons évoqué la fabuleuse transhumance de Homo sapiens et la sédentarité qui a entraîné, avec les échanges culturels et technologiques, les transformations profondes qui ont permis aux premières sociétés de s'organiser en créant les conditions pour le développement des civilisations modernes. Nous voilà maintenant donc au début de notre ère chrétienne où l'on continue à marcher. Des marches particulières et thématiques qui vont s'organiser selon les pays dans le cadre d'événements religieux, festifs ou ludiques. Nous rappellerons bien sûr un des plus anciens pèlerinages du 9e siècle, en France d'ailleurs et en Espagne, avec les fameux chemins de Saint-Jacques de Compostelle qui restent l'un des plus célèbres pèlerinages au monde, où des milliers de personnes qui empruntent chaque année différents itinéraires pour atteindre cette fameuse cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. La marche reste même de nos jours une expérience spirituelle, voire culturelle, ou tout simplement sportive. Au Japon, nous avons les Kumano Kodo, qui sont des anciens sentiers de pèlerinage dans la région de Kii. Ces itinéraires relient plusieurs temples bouddhistes et sont souvent parcourus par des visiteurs cherchant à découvrir la nature et la spiritualité. La marche est également courante dans les régions urbaines, où les gens se déplacent souvent à pied dans les grandes villes. Aux États-Unis, c'est plus récent, et ce sont les parcs nationaux, comme le Yosemite ou le Grand Canyon, où la randonnée est devenue une activité populaire. Les sentiers de randonnée sont soigneusement entretenus et attirent des millions de visiteurs chaque année. De plus, des événements comme la Marche de la Mémoire sont organisés pour commémorer des événements historiques, favorisant la marche comme acte de réflexion et de solidarité. Du côté de l'Inde, la marche de protestation menée par le Mahatma Gandhi, souvent appelée la Marche du sel ou Dandi March, a eu lieu en 1930 dans le cadre de la lutte pour l'indépendance de l'Inde contre la domination coloniale britannique. La marche a commencé le 12 mars 1930 lorsque Gandhi et ses partisans ont quitté Sabarmati Ashram pour Ahmedabad. Ils ont parcouru environ 385 km pendant 24 jours, atteignant la ville côtière de Dandi. Dans cette ville, Gandhi a ramassé du sel et en défiant la loi britannique, symbolisant ainsi la résistance pacifique contre l'oppression coloniale. Cet acte est devenu un symbole puissant de la lutte pour l'indépendance. Cette marche du sel a suscité un soutien massif au sein de la population indienne et a attiré l'attention internationale pour la lutte pour l'indépendance. Elle a renforcé le mouvement de désobéissance civile, conduit par Gandhi, et a contribué à mobiliser de nombreux Indiens contre la domination britannique. La marche reste un moment emblématique de la lutte pour la liberté aussi en Inde, et on peut aussi considérer la marche en signe. La marche de Mao fait également référence à la longue marche, une série de marches militaires. On était là entre 1934 et 1935, menée par l'armée rouge chinoise lors de la guerre civile chinoise. Cette péripétie, à un moment crucial dans l'histoire du Parti communiste chinois et de la Révolution chinoise, elle a vu les troupes communistes traverser des milliers de kilomètres à travers des terrains variés, échappant aux forces nationalistes Kuomintang. La longue marche a consolidé la position de Mao Zedong au sein du parti. Plus près de chez nous, les Pays-Bas, où la culture néerlandaise valorise la marche à travers les sentiers, comme les sentiers pédestres nationaux, et de nombreuses villes sont aménagées pour privilégier les piétons. Les Néerlandais pratiquent également la marche à des fins récréatives dans de nombreux parcs et zones naturelles. Et pour terminer, donc, le Brésil. Eh oui, lors du carnaval, certaines communautés organisent des marches et des défilés qui incluent la danse et le mouvement, promouvant un sentiment de communauté et d'identité culturelle à travers la marche collective. Ces quelques éléments démontrent comment la marche est intégrée à des pratiques culturelles, spirituelles et sociales, reliant les individus à leur environnement et à leur communauté.
Je marche, donc je suis, sur Radio FM+.
C'est le moment de la pause musicale. Je vous propose « I walk the line ». Littéralement, je marche sur la ligne de Johnny Cash. C'est une chanson emblématique qui explore des thèmes profonds tels que l'amour, la fidélité et la lutte intérieure. Le refrain de la chanson évoque l'idée de rester fidèle à ses engagements et à ses valeurs. Cela reflète une promesse d'être loyal et dévoué, en particulier envers une personne aimée, symbolisant ainsi l'importance de la fidélité dans les relations. La chanson exprime également une lutte entre le désir et la responsabilité. Johnny Cash parle des tentations et des défis qu'il doit surmonter pour rester sur la ligne. En somme, « I walk the line » est une déclaration puissante sur l'engagement, la lutte personnelle, la recherche d'une vie vertueuse, soulignant l'importance de la fidélité et de l'intégrité dans un monde souvent complexe.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Robert Maldric, Je marche donc je suis, deuxième partie. C'est le moment privilégié où j'accueille une invitée. Aujourd'hui, je reçois une habituée de notre antenne, Yolande Gounel, qui vient évoquer cette dimension incommensurable de nos randonnées, la géologie. Donc nous allons faire, Yolande, bonjour.
Bonjour Robert.
Nous allons faire cette fois-ci un petit tour dans le Gard du côté de la Dourbie.
Voilà, alors on va parler d'un très beau sentier qui part donc du village de Dourbie, qui est sur la rivière du même nom, et qui fait une boucle, une grande boucle par le Mont Mâle, et on revient par la Dourbie. Alors je préviens tout de suite, c'est un sentier qui est quand même exigeant sur le plan physique, parce qu'il monte.
Donnera quoi en dénivelé sur l'ensemble de la rando?
C'est une bonne question, je n'ai pas regardé. Mais à mon avis, on ne doit pas être loin des 500-700 mètres de dénivelé. Moi, je sais que je le fais souvent et c'est quand même un fort dénivelé. Mais là, je dois dire, il faudrait vérifier. Je n'ai pas regardé spécifiquement.
Voilà, on dira entre 450 et
1000 mètres. Non, c'est peut-être plus que ça. Pas tout à fait 1000 mètres. Mais enfin, ce qui m'a surtout intéressé, c'était la durée, en fait, des cailloux. Puisque c'est un voyage qui va commencer au Carbonifère.
Oui.
Donc, on se rappelle, Carbonifère, c'est le Paléozoïque. Donc, ça doit faire 350 millions d'années, quelque chose comme ça. Au moment de l'intrusion du granit égual Saint-Guiral. Donc ce granit qu'on connaît bien dans la région des Cévennes, et ce granit qui est venu au cours de l'orogenèse hercynienne. Alors on se rappelle, il y avait deux sous-continents à l'époque, la Laurentia au nord,
oui,
avec l'Amérique du Nord, jusqu'à la Sibérie, y compris l'Europe, la France du Nord, et puis l'Europe du Sud, enfin le continent du Sud. qui s'appelle le Gondwana, et dont fait partie le sud de la France. Il faut savoir que la France est coupée.
Était coupée en deux.
Ouais, en deux. Et donc, ces deux continents bien, se rencontrent, ils se chevauchent, et ils donnent la chaîne hercynienne, qui est partout dans le monde, hein, qui est vraiment un truc énorme. Alors, ce granit, il est d'âge donc 300 millions d'années, la fin du Carbonifère. Ensuite, on ne trouvera rien d'autre. On va rester dans le Carbonifère et on trouvera du Trias, j'en parlerai. Le Permien, qui est la période entre Carbonifère et le Trias, n'a rien laissé.
Permien, c'est la période de catastrophe, on va dire.
Voilà,
c'est la première disparition des espèces.
Exactement. Le Permien, c'est la période la plus grosse mort, donc l'extinction du Permien-Trias. Alors, mais on va trouver quelques éléments du Trias, mais pas grand-chose. On va en parler. Donc un voyage qui commence à 300 millions d'années et qui va se terminer à 230 millions d'années. Donc aujourd'hui, on fait un voyage de 70 millions d'années, ce qui correspond à la durée de vie humaine, puisque en géologie, un million d'années, c'est un an pour nous. Ça peut laisser une idée de...
Ça permet de se repérer, en quelque sorte, au milieu de ces gros chiffres, on va dire.
C'est ça. Parce que quand on parle en millions d'années, c'est plus compliqué. Alors, on va voir, en plus, les cornéennes, qui sont des roches du métamorphisme de contact, là où le granit chaud a cuit les roches qui étaient encaissantes, hein, qui étaient là, sur place. On va en reparler. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on part de Dourby. C'est très facile, on se gare près de l'église.
Voilà.
Et puis, on part en direction du Mont Mal par la très belle...
C'est le Mont Mal, hein. Le Mont, M-O-N-T, Mal, M-A-L.
Voilà, tout court. Hein. Par la très belle forêt du Suquet. Le chemin est bien indiqué, c'est un GR au début. Alors, on monte assez fort, hein, même très fort. Enfin, ça monte, voilà. Et... Ben c'est bien pour le géologue parce qu'on a le temps de regarder où on marche.
On va moins vite et on regarde effectivement là où on passe.
On a des granites très, très beaux d'ailleurs, porphyroïdes. Hein, c'est le nom technique, ça veut dire simplement avec des gros cristaux. Et
de quelle couleur il est ce granit en fait ?
Il est rose.
Ouais.
Il est rose parce qu'il est composé donc, de quartz comme tous les granites, de feldspath potassique comme beaucoup de granit, et ce feldspath potassique est rose. C'est ce qu'on appelle aussi des orthoses. Alors, on regarde, on peut en ramasser un ou deux, et puis on passe le premier portillon. Vous refermez, bien sûr, le portillon. Là, vous vous arrêtez un peu et vous regardez sur votre gauche. Vous avez le paysage qui se dévoile en direction des Causses.
Des Causses, oui.
Et c'est vraiment très beau. Et vous avez devant vous l'objet de votre montée, de vos désirs, le Mont Mal, qu'on ne voit pas très bien parce qu'il n'est pas impressionnant. Mais il est entouré de parois granitiques qui sont vraiment très belles. Alors on continue à monter sur un ancien chemin. Puis à un moment, il commence à faire chaud. Enfin, on a chaud. Alors on enlève la première couche d'habits. Et comme on est un peu feignant, on le met sur un gros caillou, comme ça on n'a pas besoin de se baisser. Et on en profite pour se retourner et regarder au-dessus de Dourby. Et là, vous voyez la flèche de l'église de Dourby.
Oui.
Et au-dessus, si vous suivez la flèche, vous voyez le petit rocher triangulaire et arrondi du Saint-Guiral.
Voilà, le fameux Saint-Guiral qui rejoint avec... le Pic Saint-Loup et le troisième frère qui était sur... N'est-ce pas
le Mont Saint-Clair.
Le Mont Saint-Clair, voilà.
Voilà. Oui, il y a une légende là.
Il y a toute la légende des trois frères là qui ont dépéri suite à la mort de leur belle à leur retour des croisades. Voilà.
Oui, enfin l'histoire finalement, ils ont bien fait. La belle a bien fait de mourir puisqu'ils n'étaient pas d'accord pour savoir qui prendrait la belle. Entre parenthèses, j'ai pas l'impression qu'on lui demandait beaucoup son avis à la belle. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Alors, vous êtes dans un paysage qui est très dégagé, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre, mais en même temps, vous n'avez rien qui gêne la vue. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Vous continuez à monter, et après le troisième portillon, et à mesure que vous grimpez vers le Suquet, vous commencez à voir par terre des éléments de roches sédimentaires. Alors, ne vous inquiétez pas, vous verrez la différence. Même sans y connaître, ce n'est pas du tout la même roche que le granit. Ça va être une roche plus fine, plus... Voilà, c'est du sédiment qui a... qui s'est
résulte de la présence de la mer quand elle arrivait jusque-là. Donc,
exactement. Exactement. C'est au moment du Trias. Donc, il y avait un peu de mer. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y a eu... et donc, ça a donné des grès. Donc, le grès, on reconnaît, hein, c'est une pierre qui est...
plus légère aussi et plus... on penserait plus friable. Ce n'est pas si friable que ça.
Mais c'est ça, oui, ça fait des petits cristaux, des tout petits cristaux. Donc, ces grès du Trias, eh bien, ils ont à peu près 250 à 200 millions d'années, donc plus jeunes que le granit. Hein. Le granit s'est formé bien avant. Alors, vous arrivez au col du Suquet. Vous jetez un dernier œil sur la vallée de Dourbi. Et là, vous voyez un peu en face, un peu à droite, le Saint-Guiral qui fait comme une petite crotte, un petit truc...
un promontoire.
Promontoire. Voilà, c'est plus littéraire que la petite crotte. Alors, vous arrivez au carrefour du col du Suquet. Et là, vous continuez le GR sur votre gauche, qui mène vers le Mont Mal, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très bien indiqué. Vous êtes dans la très belle forêt du Suquet, et vraiment, ça vaut la montée, surtout en automne, mais vous pouvez le faire n'importe quel moment. Mais en automne, vous avez une forêt de hêtres magnifique, avec toutes les couleurs. Bon, et pour ajouter à la chose, vous marchez sur du Trias. Bon, ça peut très bien ne pas vous faire beaucoup d'effet, mais enfin voilà, vous savez que vous marchez sur du Trias. Et alors, donc, c'est effectivement le matériel d'érosion qui venait de l'Aigoual et qui s'est déposé au fond de la mer en attendant des jours meilleurs et de ressurgir. Alors, petite parenthèse, vous avez des petits murets couverts de mousse. Vous avez une forêt très mystérieuse là. Et ça évoque, enfin pour moi, hein, j'ai peut-être une imagination un peu débordante, mais ça évoque les trolls.
Oui, mais pourquoi pas. Hein.
Voilà.
Voilà, c'est tout à fait bucolique.
Oui, et puis c'est très apaisant. C'est idéal pour amener des jeunes enfants, surtout que si vous cassez pied, vous leur faites peur avec les trolls, et ils vous suivront bien gentiment s'ils ont de l'imagination. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut passer de l'autre côté, notamment si on a des enfants. On n'est pas obligé de se payer la montée de Dourbi. On peut avoir la forêt du Suquet en passant par la route du Suquet. C'est une autre
possibilité. Pour un itinéraire plus facile d'accès.
Voilà, pour emmener les enfants notamment dans la forêt. Alors, au bout d'un moment, le paysage s'éclaircit sur votre droite. Et vous voyez, donc vous êtes dans la forêt, vous avez sur votre droite la vallée du Trévezel. Alors, vous cherchez des petits endroits où vous pouvez vous approcher du bord. Ce n'est pas dangereux du tout. Vous voyez la route du Suquet en contrebas, les gorges du Trévezel un peu plus loin. Et tout au fond, vous voyez les Causses avec le pont de Millau et de part et d'autre, les gorges du Tarn et de la Jonte. Alors, vous êtes sur du Trias, 230 millions d'années, et vous voyez le Jurassique, donc 150 millions d'années, qui sont sur les Causses. Et on voit bien que le côté sud des Cévennes, la vallée de Dourbi, eh bien, elle n'a rien sur le Jurassique. Il n'y a pas eu de dinosaures. Cherchez pas des dinosaures à Dourbi, vous n'en trouverez pas. Ou alors, vous me le dites. Voilà. Alors là, on quitte le GR dans la forêt. On est sur le PR. Mais bon, ça ne change rien. On quitte la forêt du Suquet. On commence à monter vers le Mont Mal. Et là, on a la vue de chaque côté. D'un côté, le Trévezel avec les Causses, je viens de l'évoquer.
Oui.
Et de l'autre côté, on retrouve la vallée de la Dourbi. Et là, géologiquement, ça devient encore plus intéressant. Parce qu'on est sur des terrains très anciens, avant l'apparition du granit. C'est-à-dire qu'il y avait des schistes il y a 500 millions d'années, donc fin du Cambrien, début de l'Ordovicien. Mmh. Et ces schistes, ils ont été cuits, littéralement, par la montée du magma granitique, donc du Pluton, Saint-Guiral, 200 millions d'années plus tard, donc vers 300 millions d'années. Le Carbonifère.
Oui, le Carbonifère. Ouais. Oui.
Et là, ce qui est remarquable, c'est que vous pouvez regarder les cailloux, vous verrez très bien les bouleversements qu'ils ont suivis. Ils sont cuits, ces cailloux. Même le non-spécialiste verra qu'il y a eu une histoire mouvementée.
Ils sont cuits. Et donc, de quelle couleur, pour donner quand même un indice?
Eh bien, disons qu'ils sont plutôt mauves. Oui, mauve, pourpre. très foncé. Et dedans, vous verrez des filons de quartz, mais vous verrez aussi des filons de liquide sombre. J'y étais avec ma petite nièce qui est géologue, on s'est demandé ce que c'était. On a pensé que c'était probablement une sorte de basalte, de magma. Ouais. Ça a tellement chauffé qu'il y a des endroits qui ont fondu. Et donc, c'est devenu des roches magmatiques. Et toujours cet aspect cuit. Alors, vous montez de nouveau, hein, vous avez des bonnes petites pentes, mais si vous souffrez, bah, vous regardez les roches à côté de vous et vous vous dites que les roches ont souffert plus que vous.
Bon. Elles ont eu plus chaud en plus.
Oui, ça, elles ont eu chaud. Même si vous avez chaud, vous aurez moins chaud. Et puis, nous, ça ne va pas durer aussi longtemps. Hein. On va monter, mais bon, ça va aller. Vous arrivez à l'endroit avec le poteau marqué « Mon mal ».
Voilà, c'était le but initial de la randonnée.
Oui, c'est le but initial, mais comme on est un peu fatigué et puis qu'on a regardé les cailloux, on va laisser le Montmal. Parce que finalement, le Montmal, il est bien, il est beau parce qu'on est encore plus haut. Mais d'abord, il n'y a pas de chemin pour monter vraiment dessus. Bon, on peut passer, hein, je l'ai déjà fait. Mais à part le fait d'être vraiment sur le trias, ce qui n'est pas forcément exaltant.
Il n'y a pas d'intérêt particulier.
Non, il n'y a pas d'intérêt. Donc, on va continuer dans les Cornéennes, toujours sur notre chemin, en regardant toujours cet aspect brûlé. Et vraiment, ça vaut le coup, je vous assure. Alors, après, on va redescendre. Et d'un seul coup, on a tout. On a une vue d'un côté, donc les Causses, la vallée du Trévezel, le Tarn, la Jonte, le viaduc de Millau et la Dourbie. Alors là, vous allez
avoir... Un magnifique panorama à 360 degrés, là, donc là, on a...
Pratiquement. Oui, c'est vraiment une des randos les plus belles de la région. Bon, alors là, vous allez descendre, puis vous avez monté fort, il faut redescendre fort. Hein. Ce n'est pas toujours très, très facile, mais enfin, en même temps, c'est amusant. Vous traversez la route, donc, qui va de Dourbie au col de la Pierre Plantée, si je ne me souviens bien. Et vous allez continuer à descendre donc vers Dourbie. Il faut retrouver
sa voiture.
Bah oui, parce que voilà, ça, on est loin. Et puis là, on va sortir du petit bois et on est sur un chemin à corniches. Ouais. Et là, d'un côté, c'est beau. Vous avez d'un côté donc sur la gauche la montagne qu'on vient de quitter, et puis de l'autre, vous avez une falaise. Et cette falaise, si on regarde les blocs. Aussi bien de cette falaise d'ailleurs que de la montagne, on se rend compte de la violence des événements qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années.
Mais la falaise, est-ce que c'est un effondrement ou est-ce que c'est au contraire une résurgence qui s'est faite sous le fait des tectoniques?
Non, on est dans le métamorphisme de contact. Alors bon, c'est cette cuisson, si je peux dire, des roches. Bon, après... Il y a eu les autres, il y a eu le trias donc, qui s'est un peu déposé dessus. Et après, tout ça qui était sous la mer a été, par moments, rehaussé lors du mouvement alpin. Sinon, les Cévennes, on ne les verrait pas. Hein.
Ouais.
Voilà. Alors, on regarde ces immenses blocs. Et puis, à votre droite, vous avez une petite vallée que vous longez qui a été créée par une faille perpendiculaire à la rivière de Dourbie. Mais vraiment, là, c'est un très bel endroit. Regardez les rochers, c'est magnifique. Et puis, très vite, on repasse, en fait, dans le granit Saint-Guiral et Goual, hein, ouais. Avant même d'atteindre la vallée de la Dourbie. Et là, on revient vers le village. C'est un peu long, puis c'est un peu monotone. Et puis, on en a plein les jambes. Mais enfin, on peut se reposer parce que c'est plat.
Et puis, on a la satisfaction d'avoir vu tout ce que l'on a vu, d'avoir découvert tout ce que l'on a découvert, n'est-ce pas? Ce fut un grand plaisir. J'espère que vous avez partagé. Donc, cette émission arrive à sa fin. Donc. Radio FM+, donc, notre chronique hebdomadaire numéro 20 se termine. Pour retrouver nos émissions, allez sur notre site www.radiofmplus.org en minuscule, tout attaché. Vous pouvez récupérer le podcast de cette émission et les précédentes, soit en allant directement dans le programme, soit en cliquant et en ouvrant la rubrique « Ici et maintenant ». Bien sûr, vous pouvez interagir sur ce podcast ou directement par mail à contact@radiofmplus.org. Merci Yolande pour cette introspection de nos sentiers de prospection. On se sépare en musique avec une chanson que tu as choisie.
qui s'appelle Épilogue de Normandie, parce que Normandie, ben, c'est bien, parce que ça fait penser à tous ces mouvements un peu brutaux, disons, un peu violents. Donc, moi, j'aime bien, je trouve que ça va bien
pourquoi
avec.
Pourquoi pas ? Donc, alors, Normandie, c'est son groupe préféré, et la chanson, donc, c'est Épilogue. Bye bye, et à la semaine prochaine, 10h. Everybody has the reasons to kill you, and mine was you, mine was you.